Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La force du sexe faible, contre-histoire de la Révolution française, tel est le titre du dernier ouvrage de Michel Onfray, paru chez Autrement. Franck Ferrand reçoit son auteur cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Je suis heureux de recevoir Michel Onfray, dont j'aime tant la liberté de pensée et de parole, vous le savez. Son ouvrage s'intéresse à la Révolution française, envisagée sous l'angle des femmes. Et si vous le permettez, à titre de préambule, je vais vous raconter l'incroyable histoire de la fière Théroigne de Méricourt. Et puis à la fin de l'émission, je répondrai à la question d'Esther sur l'origine des noms féminins donnés aux ouragans. Tout ça restera dans la note.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Dans son Histoire des Girondins, Alphonse de Lamartine brosse le portrait de Théroigne de Méricourt lors de l'insurrection du 20 juin 1792. Ce jour-là, à l'initiative des Girondins, une foule se précipite donc de la Bastille jusqu'aux Tuileries où réside la famille royale. À 11h, le peuple se mit en mouvement vers le quartier des Tuileries. On évaluait à 20 000 le nombre des hommes qui partirent de la place de la Bastille. Ils étaient divisés en trois corps. Le premier, composé de bataillons des faubourgs, armés de baïonnettes et de sabres, obéissait à Santerre. Le second, formé d'hommes du peuple, sans armes ou armés de piques et de bâtons, marchait sous les ordres du démagogue Saint-Uru. Le troisième, horde, pêle-mêle confus d'hommes en haillons, de femmes et d'enfants, suivait en désordre une jeune et belle femme, vêtue en homme, un sabre à la main, un fusil sur l'épaule et assise sur un canon traîné par des ouvriers aux bras nus, c'est Théroigne de Méricourt. Théroigne ou Lambertine de Méricourt, qui commandait le troisième corps de l'armée des faubourgs, était connue du peuple sous le nom de la belle liégeoise. Jeune et belle, nous dit Lamartine, mais en même temps, quel portrait, quelle vision ! Théroigne occupe une place particulière, disons-le, dans la tempête révolutionnaire. Elle est presque absente de tous les grands événements de la période, mais elle défend la liberté des femmes, elle refuse la violence. De telles positions, et puis par ailleurs évidemment son naturel, indomptable, tout ça lui vaut des inimitiés dans les deux camps, si je puis dire, d'un côté chez les royalistes, bien sûr, mais également du côté des montagnards, nous allons le voir. Théroigne de Méricourt, disons-le, ce n'est pas son nom de naissance, de baptême, elle s'appelle Anne-Joseph Théroigne, mais Théroigne avec un W, hein, Théroigne si vous voulez. Elle était née le 13 août 1762 dans une famille de paysans de Marcourt. On est dans la principauté de Liège, d'où son futur surnom de la Liégeoise. Aujourd'hui, ce serait en Belgique. À 5 ans, elle perd sa mère et on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que la vie pour elle devient difficile et âpre. Sa tante la recueille, la place dans un couvent, la prend, disons-le, comme une sorte de domestique et d'ailleurs, elle va être maltraitée à ce moment-là. Anne-Joseph fait une fugue. Elle décide de retourner chez son père, mais le père s'est remarié. Il y a une belle-mère qui, en fait, est une véritable marâtre. Et là non plus, ce n'est pas le bonheur. À 13 ans, Anne-Joseph s'enfuit encore avec un de ses jeunes frères. Elle rejoint ses grands-parents. Elle va s'occuper des tâches ménagères, mais elle sera de nouveau traitée assez mal. Et c'est sans doute dans cette période très difficile, violente même pour elle, que va se forger le caractère de femme forte, intrépide, qui la caractérise. Nouvelle fuite, Anne-Joseph devient vachère, elle sera également gouvernante d'enfants à Liège, et c'est à Anvers qu'elle rencontre une femme du monde, Madame Colbert. Pendant 4 ans, elle va devenir sa dame de compagnie, et ça, ça va tout changer pour elle. C'est là que se fait véritablement son éducation. Anne-Joseph, à ce moment-là, apprend à lire, à écrire, à chanter, à jouer de la musique. Elle songe même à devenir chanteuse, ça va être la grande ambition de sa jeunesse. À 20 ans, on peut dire qu'elle est une belle, qu'elle est une très belle femme, il faut l'imaginer, c'est une grande plante comme ça, mince, brune, les yeux bleus, un air mutin, avec ce petit nez retroussé qui lui donne l'air particulièrement charmant, des mains, des pieds fins. Elle ne tarde pas à séduire un officier de l'infanterie anglaise, on le comprend, et tous les deux vont partir pour Paris et donner naissance à un enfant qui meurt de la variole. C'est pour Thérouanne le début d'une période de libertinage. Elle va rencontrer pas mal d'hommes à ce moment-là, notamment le marquis Doublet de Persan, qui en vérité est un vieillard, mais qui la couvre de bijoux, d'argent, de cadeaux. Elle refuse de se donner à lui. Ça, après tout, c'est le secret des courtisanes, vous savez. La jeune femme s'éprend dans la suite d'un célèbre ténor qui va lui faire miroiter un rôle de cantatrice. Elle est amoureuse, elle y croit bien entendu, elle le suit en Italie. Ce n'est pas pour autant une relation heureuse. De surcroît, Anne-Joseph est malade. Elle a une maladie, elle a attrapé la syphilis. Elle va commencer un traitement au mercure, un traitement très lourd. Elle se plaint de douleurs dans tout le corps, des douleurs au dos. Elle a des fièvres, des migraines, des nausées permanentes, tout ça occasionné par ce traitement très lourd, bien entendu, bien plus peut-être que par la maladie elle-même. C'est en Italie qu'Anne-Joseph apprend donc, on est au printemps 1789, hein, mai 1789, elle apprend l'ouverture des états généraux à Versailles. Elle décide immédiatement de quitter l'Italie, d'abandonner cette espèce de vie un peu bohème qu'elle mène. Elle vend le peu d'argenterie qu'elle a, les bijoux du marquis, elle rejoint donc la capitale, elle découvre les jardins du Palais Royal, la même où Camille Desmoulins ne tardera pas à haranguer la foule juste après le renvoi de Nècre le 12 juillet. Elle portera, vous savez, la fameuse cocarde verte de Camille Desmoulins, et plus tard elle écrira « Ce qui me frappait le plus, c'était un air de bienveillance générale. L'égoïsme semblait être banni. Tout le monde se parlait indistinctement. Les riches, dans ce moment de fermentation, se mêlaient parmi les pauvres et ne dédaignaient point de leur parler comme à leurs égaux. Enfin, toutes les physionomies me parurent changées. Chacun avait développé son caractère et ses facultés naturelles. J'en ai vu beaucoup qui, quoique couverts de haillons, avaient un air héroïque. » Anne-Joseph cherche à rejoindre Versailles, puisque c'est là que tout se passe, bien entendu. C'est là que travaille la nouvelle assemblée. Elle va louer un logement. Elle reçoit toutes sortes de révolutionnaires. Elle assiste aux séances de l'assemblée, bien entendu. Elle est là pour les débats, pour la lecture de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est à cette période-là qu'elle commence à s'habiller en amazone.
Deuxième air de ballet de Zémi Réazor, l'opéra ballet en quatre actes d'André Gretry, créé en 1771.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La révolution des femmes est au cœur de l'histoire. Vous nous racontez, Franck Ferrand, le destin de celle qui sera appelée Théroigne de Méricourt, l'Amazone Anne-Joseph Théroigne, personnage féminin emblématique de la révolution.
Vous savez comment on surnommait Théroigne de Méricourt, hein, on la surnommait l'Amazone écarlate. Elle portait une ample jupe rouge vif, sur la tête un panache noir de jais, un chapeau rond surmonté d'un très gros bouquet de plumes noires. Ah, elle savait se faire remarquer. Alors après les journées des 5 et 6 octobre 1789, vous savez, ces journées qui ont vu le peuple de Paris et beaucoup de femmes notamment ramener à Paris le roi et la reine, toute la famille royale, l'Assemblée va déménager, va s'installer elle-même dans les jardins des Tuileries, et Anne-Joseph Théroigne, toujours avec le W, fait de même, elle s'installe de nouveau à Paris pour suivre les séances, bien entendu. Elle se fait remarquer, hein, ses tenues d'Amazone, sa beauté, ses propos un peu à l'emporte-pièce, son assiduité, tout simplement, la font remarquer. En plus, l'hôtel de Grenoble, où elle habite, devient un lieu de rassemblement après les travaux de l'Assemblée. Donc elle est aux premières loges, disons les choses. Il y a un député, un mathématicien du nom de Charles Gilbert Rome, qui la remarque tellement qu'il va tomber amoureux d'elle. Ils fonderont ensemble le club des amis de la loi, et dans ce club on aborde les thèmes de la liberté de la presse, de l'abolition du mar d'argent, on aborde le thème d'une citoyenneté à part entière pour les juifs. Vous voyez que pour Anne-Joseph, tout ça est une sorte d'école de la politique, et elle ne tardera pas, elle, à demander l'émancipation des femmes. À l'époque, rares sont ceux qui osent défendre de telles positions. Je pense au philosophe Condorcet, bien entendu. Si j'en crois Michel Onfray, Théroigne semble un Condorcet fait femme. Peu d'hommes la soutiennent, disons-le. Les membres du club sont tout à fait hostiles à l'émancipation des femmes. D'ailleurs, ce club des amis de la loi est dissous quelques semaines seulement après sa création, et Anne-Joseph ira s'exprimer plutôt désormais devant le club des cordeliers. Elle propose de construire un temple de la nation sur l'emplacement des ruines de la Bastille. Elle décide néanmoins, bientôt, elle voit les choses évoluer à Paris, elle décide de repartir pour sa terre natale. Elle repart à Marcourt, et disons les choses, par rapport à tous les rêves qu'elle a pu former dans les débuts d'une révolution qui paraissait tellement pleine de promesses, elle est déçue. Elle qui se faisait une joie de mettre à bas le pouvoir des hommes, elle n'a pas réussi à créer son propre club. Elle supporte mal les attaques qui viennent de partout, et d'abord des milieux royalistes, disons-le, qui font d'elle littéralement leur tête de turc. On la traite d'espionne hystérique et même de prostituée sanguinaire. La presse royaliste s'acharne contre elle. Et c'est là qu'elle va mériter ce surnom de Théroigne de Méricourt, une appellation, un nom qu'elle-même ne revendiquera jamais. Donc, la voilà repartie chez elle, là-haut, dans ses Flandres, à Marcourt, où elle reprend espoir. Elle exporte la révolution, nous dit Michel Onfray. Elle apprend des chansons patriotiques aux paysans dans les veillées. Elle bataille contre le meunier qui gruge les paysans. Elle entreprend le curé contre la dîme. Elle trouve des vêtements pour les pauvres. Elle vend des bijoux. Elle envisage de créer un journal républicain. Seulement, un certain nombre de ses ennemis, et notamment les agents de l'empereur d'Autriche, vont garder un œil sur elle. En effet, ils pensent qu'elle est revenue sur sa terre natale pour ourdir un complot révolutionnaire contre la principauté de Liège, qui dépend directement de l'empereur d'Autriche. Or, la ville de Liège, il faut le savoir, en août 1789, donc à l'inspiration des événements parisiens, a été le théâtre d'une insurrection. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1791, notre héroïne est enlevée par des hommes qui se font passer pour des patriotes venus la protéger d'un certain nombre de manœuvres contre elle. Elle ne voit pas le mal, elle leur fait confiance. En fait, ce sont des ravisseurs, ce sont des royalistes qui la conduisent au Tyrol, dans une cellule de la forteresse de Kufstein, un château médiéval dont il est évidemment totalement impossible de s'évader. Des enquêteurs envoyés de Vienne vont la rencontrer, vont l'interroger pendant des jours. Pendant des semaines entières, elle ne leur dit rien, sauf que son but à elle, c'est l'amélioration de la condition des femmes. Évidemment, il ne faut pas, j'allais dire, il ne faut pas longtemps. Si, il leur faut longtemps. Mais les Autrichiens vont finir par réaliser qu'ils font fausse route. Et après 9 mois de détention, Théroigne de Méricourt, dont l'état de santé s'est évidemment beaucoup dégradé pendant toute cette période de détention, elle est transférée à Vienne. Et, chose assez incroyable, elle va rencontrer l'empereur Léopold. Alors, j'ai souvent pensé qu'il faudrait faire une pièce de théâtre sur cette rencontre incroyable entre l'empereur d'Autriche. Vous imaginez? Entre l'empereur Habsbourg et Habsbourg-Lorraine et cette Théroigne de Méricourt. On ne connaît pas bien sûr la teneur exacte de leurs échanges. Ce qu'on sait, c'est qu'après cela, elle va quand même être libérée. Elle revient en France et le moins qu'on puisse dire est qu'elle découvre un pays entièrement changé. En juin de cette année 91, le roi et sa famille, vous le savez, ont tenté de s'éloigner de Paris. Ils ont été arrêtés à Varennes. La monarchie constitutionnelle, disons-le, ne tient plus vraiment qu'à un fil. La guerre maintenant paraît inéluctable. Théroigne devient un symbole de la révolution, de la liberté. Elle est celle qui a passé 9 mois dans les geôles du tyran autrichien. Imaginez ça. En janvier 92, elle peut donc s'exprimer à la tribune du club des Jacobins, à la tribune des femmes. Elle monte ensuite, et ça c'est incroyable, à la tribune de l'Assemblée. Ça c'est une chose rarissime pour une femme. Pierre Manuel, le procureur de la commune, déclare « Vous venez d'entendre une des premières Amazones de la liberté. Elle a été martyre de la Constitution. Je demande que présidente de son sexe, assise aujourd'hui à côté de notre président, elle jouisse des honneurs de la séance. »
La révolution des femmes est au cœur de l'histoire. Vous restez avec nous et je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand, envoyer vos messages. Vous pouvez réagir via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH sur la page Facebook de l'émission ou nous envoyer vos messages par mail sur notre site europe1.fr. Nous vous retrouvons dans un instant sur Europe 1 et Franck Ferrand. Eh bien, vous continuerez de nous parler de la révolutionnaire Anne-Joseph Théroigne, l'Amazone Théroigne de Méricourt. Bel après-midi sur Europe 1.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La révolutionnaire Théroigne de Méricourt est cet après-midi au cœur de l'histoire sur Europe 1. Vous nous racontez, Franck Ferrand, l'incroyable destin de cette Amazone de la liberté.
L'ordre du jour révolutionnaire, c'est maintenant la guerre. La France est menacée de toutes parts. C'est ce qui va bientôt devenir une jeune république. Et Théroigne décide de créer un bataillon de femmes, des femmes armées, des légions d'Amazones. Le 25 mars 92, elle prononce devant la Société fraternelle des Minimes le discours suivant. Il est enfin temps que les femmes sortent de leur honteuse nullité où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps, déclare-t-elle. Mais cette position est loin de faire l'unanimité, y compris dans les rangs même de la Révolution, où les Jacobins voient tout ça d'un très mauvais œil, disons-le. Un pantalon de maroquin rouge, un bas de laine noire, un jupon de damas bleu, un fichu tricolore et un bonnet de gaz couleur de feu surmonté d'un pompon vert. Vous voyez un peu la tenue de l'Amazone au soir du 25 mars 92, lorsqu'elle se rend à un banquet donné par les habitants du faubourg Saint-Antoine. Théroigne, qui veut recruter des femmes pour former ses légions, se heurte évidemment aux moqueries. On se moque d'elle. Le commandant de la garde nationale Santerre dit « Les hommes de ce faubourg aiment mieux, en rentrant de leur travail, trouver leur ménage en ordre que de voir revenir leurs femmes d'une assemblée où elles ne gagnent pas toujours un esprit de douceur, de sorte qu'ils ont vu d'un mauvais œil ces assemblées répétées 3 fois la semaine. » C'est ça le fond de la pensée d'un grand nombre, d'une immense majorité des révolutionnaires, évidemment. La guerre est donc déclarée le 20 avril 1792. Les révolutionnaires subissent quelques jours plus tard un revers d'envergure en Belgique et le roi en profite pour renvoyer les ministres girondins. Ça, c'est très important. Nous en dirons un mot tout à l'heure, bien sûr, avec Michel Onfray. Le 20 juin, les Girondins décident de marcher sur les Tuileries. Alors, on a évoqué le rôle de Théroigne pendant cette journée. Et vous savez que quelques semaines plus tard, le 10 août 1792, c'est la prise des Tuileries. C'est la fin du régime monarchique. Et à ce moment-là, Théroigne de Méricourt reconnaît l'un de ses pires ennemis, le pamphlétaire royaliste François Sulot. Vêtu d'une robe d'Amazone en tissu bleu, nous dit Michel Onfray, coiffé d'un feutre à la Henri IV, orné de grandes plumes noires, une paire de pistolets et un poignard à la ceinture, Théroigne l'aurait reconnu aux Tuileries. Elle l'aurait alors appelé l'abbé Sulot, ce qui aurait eu pour effet de précipiter la foule sur lui avant qu'elle ne le passe au hachoir de ses lames et couteaux, de ses sabres et de ses piques, lui et 8 autres de ses compagnons. La tête de Sulot fut coupée, portée au bout d'une pique et son cadavre jeté place Vendôme. Les témoins racontent sans la nommer que Théroigne harangue ses légions, hein, toutes ces femmes qui sont là armées de sabres, de piques. Rappelez-vous le massacre des Suisses. Et le moniteur va annoncer « Les fédérés viennent de décerner des couronnes civiques à Mesdemoiselles Lacombe, Théroigne et Reine Audu qui se sont distinguées par leur courage dans la journée du 10 août. » Est-ce que c'est un brevet de respectabilité pour Théroigne de Méricourt ? Elle veut faire entendre la voix de la raison, nous dit néanmoins Michel Onfray. La voix de la sagesse, de l'union, de la fraternité, de la révolution, de la paix. Elle ne veut ni des passions tristes, ni de la violence, ni des factions, ni de la désunion, ni du sang, ni des massacres. Et pourtant, la révolution est en train de basculer, la terreur n'est plus très loin et pendant des mois, on va perdre la trace de Théroigne de Méricourt qui doit faire face à toutes sortes de problèmes et d'abord à des difficultés financières, disons-le. On la retrouve en mai 93, donc en pleine terreur. Le 15 mai, elle se présente en Amazone rouge et panache noire à l'entrée de la convention et en face d'elle, elle a ses femmes acharnées qui voient en elle une traîtresse aux positions beaucoup trop modérées. Ce sont les fameuse tricoteuse. Le ton monte. Les jacobines la saisissent, retroussent ses jupes en hurlant de rire et fesses à l'air vont la fouetter. Théroigne est profondément humiliée, ça fait sans doute ressurgir en elle toutes sortes de souvenirs d'une jeunesse dont je vous ai dit qu'elle avait été très difficile. C'est Marat qui intervient pour mettre fin au triste spectacle et à l'humiliation publique de Théroigne. Quand on y repense, quelle ironie quand même de voir que cette femme qui voulait défendre les femmes ait pu être victime des pires d'entre elles. C'est un épisode qui, dans sa psychologie, va marquer une rupture. Et quand je dis dans sa psychologie, vous savez que Théroigne de Méricourt va bientôt perdre la raison. Tous ses espoirs, tout ce en quoi elle croyait est aboli peu à peu. Le 30 octobre 93, les clubs féminins sont interdits. Quelques mois plus tard, au printemps 94, un des frères de Théroigne demande qu'on la place sous tutelle. Elle souffre visiblement de délire de persécution. Théroigne de Méricourt a été dénoncé pour ses propos suspects. Et le 17 juin 94, alors là, cette fois, on est en pleine terreur. Tout à l'heure, on était au printemps 93, ça annonçait déjà la terreur. En juin 94, on est en plein dedans. Elle est envoyée en prison, elle est transférée dans des maisons, vous savez les maisons où l'on, ce qu'on appelait les petites maisons où l'on mettait les folles tout simplement. Et les années vont passer et Théroigne de Méricourt va perdre complètement la raison. Nous avions eu l'occasion dans cette même émission de raconter le caractère sordide de ces dernières années où elle se déambule complètement nue, en train de faire une sorte de ménage délirant dans l'asile où elle a trouvé un triste refuge. 23 années d'enfermement préluderont à la mort de Théroigne seulement en juin 1817. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous allons parler de Théroigne dans un instant, mais aussi de toutes ces autres femmes et d'une façon plus générale, du rapport entre féminité et révolution.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ça ira, les aristocrates, on les prendra. La Troie sans ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La Troie sans ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La Troie sans ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. en nous laissant crever d'une misère. Ça ne pouvait pas durer toujours. La loi sans ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours.
La chanson symbole de la révolution, Assa Ira, est sur Europe 1, l'interprétation d'Edith Piaf en 1953 pour le film Si Versailles m'était compté, film de Sacha Guitry. Terroigne de Méricourt et les femmes de la révolution sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le philosophe Michel Onfray, auteur du livre La force du sexe faible, contre-histoire de la révolution française, paru au mois de mai aux éditions Autrement.
Alors, pour revenir un moment sur Terroigne de Méricourt, Michel Onfray, elle meurt bien longtemps après la Révolution, mais certains ont dit qu'elle en était néanmoins une victime. C'était la thèse d'Elisabeth Roudinesco, notamment, qui voulait que Terroigne ait été emportée par la folie révolutionnaire. Qu'est-ce que vous pensez de cela, vous ?
Ah, je pense que Madame Roudinesco n'a pas tellement le sens de l'histoire, qu'elle a beaucoup le sens de l'inconscient, et qu'avec l'inconscient, on peut faire dire n'importe quoi au réel. Elle est devenue folle simplement parce qu'elle a contracté une syphilis. C'est beaucoup trop simple pour les tenants de la pensée magique que sont Madame Roudinesco et quelques autres psychanalystes.
Vous allez encore vous faire des amis.
Mais non, mais c'est vous qui m'en parlez. Donc, effectivement, comme d'une certaine manière, elle a le monopole de Terroigne de Méricourt, les gens souscrivent à cette hypothèse qui n'est vraiment qu'une hypothèse freudienne et qui est absolument extravagante. On a eu exactement la même chose avec Nietzsche, vous savez, qui lui aussi a contracté une syphilis dans ses jeunes années. La syphilis à cette période-là ne se soigne pas, enfin la soigne avec des remèdes qui finalement détruisent beaucoup plus le patient qu'il n'améliore sa santé. Et on avait dit de Nietzsche qu'effectivement, à attaquer Dieu comme ça, et bien finalement, il était devenu fou parce que la chose était trop grosse pour lui. Et là, l'idée que Terroigne de Méricourt ait pu mourir de la Révolution française et être une victime alors que la Révolution française était bien terminée, tout ça fait qu'effectivement, on laisse de côté cette folie qui va l'emporter simplement parce qu'elle a contracté une maladie.
Terroigne de Méricourt, écrivez-vous dans votre contre-histoire de la Révolution, Terroigne de Méricourt veut que les femmes puissent elles aussi défendre la République en partant au combat afin de défendre la réalité d'un régime de liberté, d'égalité et de fraternité. Elle souhaite aussi, quand cette guerre cessera d'être défensive et dirigée contre les ennemis de la Révolution, que la violence cesse de faire la loi dans une configuration où l'adversaire est devenu l'ennemi intérieur, ce qui nomme la guerre civile. Elle aspire à réaliser la liberté par les femmes. Vaste programme pour cette femme qui a beaucoup souffert, il faut dire, et qui connaît la vie pleinement.
Oui, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire un féminisme qui n'est pas féministe. C'est-à-dire il y a un féminisme aujourd'hui qui est
de l'action et de la réalité.
Oui,
en fait,
c'est le féminisme aujourd'hui très très urbain, très universitaire, très médiatique, qui se demande comment il faut écrire auteur eux, professeur eux, etc. Enfin, qui ne se demande pas qui a résolu
la question. Déjà. Voilà. Oui.
Et puis il y a une autre façon d'être féministe qui passe par les faits, quoi. Qui considère effectivement que si la Révolution française se fait au nom de l'universel, de la totalité de l'humanité, il en manque au moins la moitié, à savoir le sexe qu'on dit faible. J'estime que toutes ces femmes, elles sont intéressantes d'abord parce qu'aucune d'entre elles ne se trouve du côté des Jacobins, ces centralisateurs
qui
décapitent. Eh oui, absolument. C'est une hypothèse pour moi.
Quand vous dites
départ.
Aucune d'entre elles, il y a les tricoteuses hein, quand même qui suivent.
Oui, bien sûr, il y en a, mais on n'a aucun nom.
Les tricoteuses, elles sont anonymes.
Aucun nom. Oui, oui. Voilà, des femmes qui trempent leurs mouchoirs dans le sang des guillotinés pour s'en repaître, etc. Il y a ce genre d'hystérie, effectivement, mais aucun nom. On n'a aucun nom. Alors que tous les grands noms des femmes de la Révolution française, finalement, à part Claire Lacombe, par exemple, Pauline Lacombe.
Pauline Lacombe, oui.
Il y a effectivement des femmes qui, elles, ont des sympathies pour la Gironde. Alors comme la pensée girondine est massacrée par les historiens de la Révolution française, qui la plupart du temps sont marxistes, néo-marxistes...
Pas tous, hein, il y a toutes sortes d'historiens de la Révolution française.
Depuis
François Furet, au moins.
Depuis François Furet, oui. ça fait peu de temps.
C'est vrai.
En fait, on a eu quasiment plus d'un siècle d'historiographie qu'on dira marxiste, ce qui fait qu'effectivement, quand on lit avec l'œil de Robespierre la Révolution française, c'est pas extraordinaire. Les Jacobins sont extraordinaires, fantastiques, merveilleux, formidables, et les Girondins, c'est la droite, c'est Macron d'aujourd'hui, enfin... Alors que c'est pas du tout ça.
Il y a vous savez, quand vous avez beaucoup fréquenté cette période du 18e siècle, ce qui est mon cas, puisqu'au départ j'étais 18e-miste, ne l'oublions pas, vous êtes très frappé par cette espèce de changement total du paysage politique entre les années 1780 et les années 1800, c'est-à-dire avant et après la Révolution. Certes, la Révolution apporte des droits, des libertés, c'est un extraordinaire souffle qui entre dans le royaume, enfin dans le pays, mais disons les choses, les femmes qui jouaient un rôle éminent dans l'aristocratie à la fin de l'Ancien Régime sont d'un seul coup retirées de la scène publique. Et l'on se retrouve au début du 19e siècle avec des assemblées qui sont presque exclusivement masculines. Comme si la Révolution s'était faite un petit peu sans les femmes. Vous êtes conscient de ce phénomène sociologique simplement?
Oui, mais enfin, on sait très bien que la Révolution française a été bourgeoise et on abolit l'aristocratie parce qu'on permet la naissance de la bourgeoisie et c'est la naissance de la bourgeoise finalement la Révolution française. Mmh. C'est-à-dire une femme à qui on va demander d'être la bonne
plus
épouse,
discrète,
la bonne mère,
qui
restera dans son coin, qui ne fera pas de politique. Voilà pourquoi c'est intéressant de voir que quand le jacobinisme triomphe, c'est finalement la misogynie et la phallocratie qui triomphent. Les Girondins et les Girondines, pour le coup, sont plus féministes.
Alors nous allons venir à la Gironde, essayer de la définir, de l'approcher par un certain nombre de figures féminines dans un instant. Avant cela, je voudrais qu'on revienne sur une des grandes figures de la Révolution que vous avez déjà eu l'occasion de traiter dans le passé, mais qui se trouve être une figure contre-révolutionnaire, puisque c'est l'héroïne du royalisme, c'est-à-dire Charlotte Corday.
Vous pensez qu'elle est contre-révolutionnaire, vraiment ?
Ou elle est d'une autre forme de révolution,
disons. Elle est vraiment révolutionnaire. Non, ça aussi, c'est une lecture jacobine, puisqu'elle a assassiné l'ami du peuple, c'est donc Marat, donc c'est donc bien la preuve qu'elle est l'ennemi du peuple. Et il y a effectivement une récupération et de la droite et de la contre-révolution, des monarchistes, des royalistes, etc., des légitimistes, parce qu'ils estiment qu'elle veut tuer la Révolution française. Non, elle ne veut pas tuer la Révolution française, elle est elle-même républicaine.
Mm-hmm. Républicaine à la romaine, à l'ancienne,
oui,
à l'antique.
Oui, c'est ça, mais comme on l'est à l'époque. Mm-hmm. Et elle a lu pratiquement toutes les brochures, plus de 500 brochures, nous dit-elle, concernant la Révolution française. Elle descend de Corneille, elle estime effectivement qu'il faut être à la hauteur de la morale de Corneille, mais aussi de Plutarque, qui est son grand maître. Et elle est révolutionnaire, elle est girondine, mais évidemment, on dit qu'elle est catholique, mais elle refuse de communier. Enfin,
c'est en voyant les Girondins arriver dans sa ville, dans sa Normandie, qu'elle va prendre conscience de ce qui est en train de se passer à Paris, en fait. Hein. Elle les voit elle les fréquente.
Alors, d'abord, elle sait ce qui se passe à Paris depuis la première heure. Et puis ensuite de ça, je dirais, c'est une pauvresse, c'est une petite dont la mère est morte très tôt et elle est aristocrate bien sûr, mais vraiment pauvrissime. Et elle est accueillie à l'abbaye aux Dames et elle voit la Révolution française à la première heure, puisque finalement le vicomte de Belzunce est décapité à Caen en 89 et que on lui coupe la tête, mais en même temps on lui arrache le cœur et puis on joue au football, à la balle comme on disait à l'époque, avec le cœur du vicomte de Belzunce et la tête du vicomte de Belzunce est promenée au bout d'une pique et on montre cette tête-là à l'abbaye aux Dames où elle se trouve. Donc la Révolution française, elle voit qu'elle est violente et brutale, il y aura même de l'anthropophagie, on va manger le cœur du vicomte et Michelet raconte qu'il y a eu deux cas d'anthropophagie dont celui-ci à Caen. Donc elle sait que la Révolution française est violente, nonobstant elle l'est tout de même révolutionnaire. Elle estime que son père a d'ailleurs écrit des choses sur le droit féodal, il voudrait une révolution. Alors évidemment tout le monde est monarchiste à l'époque en 1789, y compris Robespierre. On veut une monarchie constitutionnelle à ce moment-là. Et quand les Girondins se retrouvent effectivement à Caen, il y a une levée, une mobilisation en masse qui n'est pas du tout en fait efficace, puisqu'il y a très peu de gens qui répondent positivement. Et c'est parce que, pour aller combattre les Jacobins à Paris, et c'est parce que finalement il y a peu de monde sur la place de la Révolution où l'on décapite à Caen, place Saint-Sauveur aujourd'hui, qu'elle décide elle-même de faire le travail. Donc elle s'en va à Paris en disant j'arrête la Révolution, en arrêtant celui qui fait couler le sang. Et là, c'est un beau geste, comme celui du général de Gaulle le 18 juin. C'est un beau geste, mais ça accélère la terreur et on connaît l'histoire.
Elle accomplit, dites-vous, une sidérante opération dialectique en faisant couler le sang pour arrêter que le sang coule. Elle tue pour qu'on ne tue plus. Elle condamne le sang et le verse pour montrer qu'elle le condamne. C'est tout le paradoxe de sa situation, évidemment, qui n'a pu qu'amener à un certain nombre de confusions, forcément.
De confusion, de probablement de méconnaissance de ce qu'est la violence jacobine. C'est parce qu'effectivement les jacobins se disent voilà, Marat a été assassiné, qu'on va pouvoir en profiter, et à ce moment-là on déclenche encore plus la terreur. Enfin, ça devient d'une extrême violence. Elle ne peut pas imaginer une chose pareille. Il aurait fallu que plein d'autres gens la suivent, mais en même temps elle fait le beau geste. Finalement, c'est la décapitation de Robespierre qui arrête Robespierre lui-même, et il faut les termes de rien, mais on voit bien comment les choses se passent. Jamais les jacobins n'auraient été capables de se remettre personnellement en cause. Donc quiconque n'était pas jacobin était présenté comme un contre-révolutionnaire. Voilà pourquoi elle a été présentée, et elle est aussi présentée comme contre-révolutionnaire.
Là, on est en présence d'un cavalier seul, ou d'une cavalière seule, si je puis dire. Oui. Elle va seule à Paris, elle accomplit son geste hors de tout complot, malgré ce qu'on a pu dire et écrire, évidemment, à l'époque, mais l'histoire a fait justice à Charlotte Corday sur tous ces points. Elle ne fait pas partie d'un mouvement politique elle-même. Elle assume simplement une conscience politique. C'est pas tout, hein, c'est ça. C'est
oui. Mais avec une sensibilité girondine. C'est-à-dire qu'elle estime effectivement que la centralisation parisienne, ça n'est pas ce qu'il faut, et que la centralisation, c'est effectivement deux ou trois personnes qui décident et qui décapitent, et qu'il y a des provinces, et qu'en province, on doit pouvoir penser la Révolution autrement. Et de fait, Tocqueville raconte bien qu'effectivement, la Révolution française croit être originale, alors qu'en fait, elle prend la centralisation que les rois ont fabriquée depuis trois siècles, et qu'elle reste un monument de centralisme. On est encore dans cette logique-là avec la Ve République et le président de la République aujourd'hui. Et c'est une proposition politique qu'elle fait en estimant qu'on peut être girondin, c'est-à-dire fédéraliste, ce qui n'exclut pas la disparition de l'État, mais on estime évidemment que un fédéraliste, c'est un contre-révolutionnaire qui veut attenter à l'unité de la République, ce qui est évidemment faux.
Nos auditeurs l'auront compris, Michel Onfray, et la lecture de votre ouvrage les confortera. Au-delà des femmes, ce sont bien les Girondins que vous avez l'intention de réhabiliter, et la pensée girondine en tout cas.
Ah oui, absolument. Parce que d'abord, la bibliographie est extrêmement rare, et puis elle est souvent à charge. Je redis qu'effectivement, l'historiographie, enfin, l'art d'écrire l'histoire, est la plupart du temps une aventure masculine. On oublie que Germaine de Staël est la première à écrire la première l'histoire de la Révolution française, parce qu'elle est écrasée par les Michelet, par les Taine, par les Pierre, par tous les autres. Et on oublie qu'il y a là effectivement un continent entier à réhabiliter, parce que même pour aujourd'hui, je veux dire, ou pour demain, en période présidentielle, on peut imaginer que la pensée girondine est une solution pour répondre aux problèmes que les jacobins d'aujourd'hui, de droite et de gauche, ont généré.
Dans un instant, avec vous, nous allons essayer de nous approcher de ces figures majeures qu'ont pu être Manon Roland ou bien entendu Olympe de Gouges.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Théroigne de Méricourt et les femmes de la Révolution française sont au cœur de l'histoire. Vous recevez, Franck Ferrand, le philosophe Michel Onfray, fondateur de l'Université populaire à Caen. Il est l'auteur du livre « La force du sexe faible, contre-histoire de la Révolution française » paru au mois de mai aux éditions Autrement.
Jusqu'ici, et c'est un peu le reproche qu'on pourrait formuler à cette même émission, puisque nous avons souvent consacré des émissions à Théroigne de Méricourt, je crois que c'était la troisième aujourd'hui, à Charlotte Corday, de nombreuses. On a tendance à considérer ces femmes, ces figures féminines de la Révolution, un peu comme des entités à part, séparées de la réalité politique de leur moment. Ce que vous essayez de faire, Michel Onfray, c'est de les réinsérer dans un courant. Et selon vous, le courant que vous appelez girondin, au sens assez large d'ailleurs du terme, hein, ce ne sont pas les girondins simplement au sens des députés de la Gironde.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est assez complexe, parce que plus on rentre dans l'histoire de la Révolution française, plus c'est compliqué. Plus on rentre dans le détail, moins on comprend. Et puis il faut penser de manière extrêmement précise, jour après jour, semaine après semaine, et prendre les textes et voir que les uns ont dit une chose, mais les mêmes ont dit une autre chose, puis ils ont redit encore autre chose. Il y a des textes extraordinaires de Robespierre qui condamnent la peine de mort, par exemple. Et quand on voit que Robespierre est le grand pourvoyeur de guillotine pendant des années, on se dit effectivement qu'il faut avoir le souci et de l'œuvre complète et d'une lecture chronologique. Donc effectivement, la pensée girondine, elle n'est pas constituée tout de suite. Et d'une certaine manière, elle est constituée à partir du moment où ils se font envoyer tous à l'échafaud, parce que Robespierre estime qu'il faut commencer par cela. Donc il y a un corpus très hétérogène, de fait, mais avec cette idée centrale tout de même que les Jacobins, la centralisation, Paris qui décide pour le restant de la France, c'est effectivement l'objectif prioritaire à attaquer.
Celle qui connaît le mieux les députés de la Convention et un certain nombre des émanations exécutives de cette assemblée, c'est Manon nom Roland, bien entendu, c'est Madame Roland, à laquelle vous vous attachez de façon assez singulière, je trouve. Comment la présenteriez-vous aujourd'hui à nos auditeurs, Madame Roland?
Une femme de tête, on dira, une femme philosophe en même temps. C'est quelqu'un qui a lu la totalité des philosophes des Lumières et qui estime que la Révolution française doit être vraiment fille des Lumières. Et il y a effectivement un moment donné où ça bascule et les Lumières disparaissent. On entre dans les ténèbres. On peut dire qu'il y a deux révolutions françaises, la révolution des droits de l'homme, la révolution de l'abolition des privilèges, la révolution qui permet effectivement d'en finir avec l'exploitation, la féodalité, etc. Et puis à un moment donné, on passe à autre chose. C'est la révolution libertaire qui laisse la place à la révolution égalitaire. Et là, on décapite à tour de bras, c'est le sang. Et effectivement, il n'y a pas un seul philosophe pour justifier ces choses-là, si ce n'est une interprétation d'un certain Rousseau qui, à un moment donné, dans le contrat social, nous dit on les forcera à être libres pour ceux qui ne consentiraient pas à la volonté générale.
Lorsqu'il parle encore de façon très générique et très abstraite, il n'a pas l'idée concrète de ce que ça donne, Rousseau.
Bah, vous savez, quand vous dites la volonté générale, ça n'est pas la somme des volontés particulières, mais c'est la volonté de tout le monde dans la mesure où chacun se détermine en fonction de l'intérêt général, et que vous dites ceux qui n'auront pas souscrit à cette volonté générale, eh bien on les forcera à être libres. Vous ne dites pas le détail, vous n'expliquez pas ce que ça veut dire forcer à être libre, sachant que la liberté c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, comme le dit Rousseau, mais forcer ça veut dire effectivement couper la tête, ça veut dire déporter, ça veut dire incarcérer, ça veut dire maltraité, ça veut dire confisquer les biens, enfin tout est possible, tout est pensable. Rousseau rend la chose tout de même possible. C'est un autoritaire, Rousseau.
Est-ce qu'on peut dire de ces femmes de la Révolution, les très rares noms qui nous soient parvenus, parce que comme vous le dites, un certain nombre sont restés anonymes, bien entendu, est-ce qu'on peut dire d'elles qu'elles avaient toutes une personnalité à part, qu'elles étaient singulières? Elles ont toutes un côté un peu excentrique, disons les choses. Alors, Théroigne de Méricourt, elle
est la plus excentrique.
Non, mais même avant sa folie,
elle a un comportement.
Mais c'est le cas d'Olympe de Gouges, d'une certaine manière aussi. C'est une singularité.
Absolument, vous avez raison, c'est le mot qui convient. Ce sont des individus.
C'est ça, voilà.
Ce sont des figures qui, avant la Révolution française, sont éprises d'absolu. Lectrice la plupart du temps de Plutarque, des anciens, plutôt les Romains que les Grecs d'ailleurs, avec le désir d'une grande vertu. Enfin, il y a un désir de vertu dans le civisme.
Et ce mouvement-là, il apparaît bien avant la Révolution du reste. Hein. Il traverse déjà tout le règne de Louis XVI et même sans doute un peu avant déjà. Il y a ce goût de retour à l'antique, cet attachement à une certaine vertu romaine qu'on pourrait croire vertu virile et qui va fasciner beaucoup de femmes en vérité.
Oui, alors là, vous avez raison, si vous voulez faire la généalogie de cette idée-là, c'est la Renaissance, bien sûr.
Et
c'est très précisément Montaigne. Montaigne est quelqu'un qui nous fait savoir qu'effectivement, Plutarque est susceptible d'être lu encore aujourd'hui et que on peut chercher une éthique chez les Romains, ce qui est donc une façon de prendre de la distance à l'endroit du christianisme. On voit bien que dès que la raison commence à faire son travail, on pourrait même remonter d'une certaine manière à la scolastique. C'est-à-dire, dès que la foi ne suffit plus et qu'on fait référence à la raison, alors pour le coup, on va vers un mouvement qui va générer ensuite les Lumières, puis l'encyclopédie, et 1789 est le produit des Lumières. Ça dérape ensuite avec la Terreur, bien sûr.
Est-ce qu'on a raison aujourd'hui de faire d'Olympe de Gouges celle qui aurait en quelque sorte tenté d'universaliser le message de la Révolution?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose d'assez étonnant à dire l'universel. Il y a déjà Kant avant ça. Je veux dire, avant la Révolution française, on a des textes de Kant qui proposent
qui
effectivement
aspire,
de penser l'universel. Et l'universel fait déjà défaut, puisque c'est la moitié de l'humanité qu'on laisse de côté en estimant que les femmes n'existent pas. Chez Kant, les femmes n'existent pas, et effectivement, dans la Révolution française, les femmes n'existent pas non plus. Donc il y a quelque chose d'ironique chez Olympe de Gouges à vouloir une déclaration des droits de la femme, parce que quand vous prenez l'homme et que vous mettez femme à la place, vous dites « Ah, mais ça change effectivement tout, parce que on peut imaginer que l'humain, enfin l'homme c'est l'humain, mais en fait on voit bien que ça reste l'homme qui n'est pas la femme pour le coup. »
Vous le dites en termes très clairs, rédige une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne avec humour, ironie même, elle reprend le texte des hommes et remplace « homme » par femme, là où les mots apparaissent, ce qui ouvre de fabuleuses perspectives ontologiques, existentielles et philosophiques. On lui coupe la tête, elle exprime la force du sexe faible, c'est le titre de votre livre.
Oui, parce que c'est quand même quelque chose d'étonnant de voir que la Révolution française qui parle pour l'humanité estime que les femmes n'existent pas, que ce sont de grands enfants, pour utiliser pour le coup encore une fois l'expression de Rousseau. Donc certaines femmes, des individualités, des tempéraments, des femmes avec des caractères bien trempés, ce que vous appeliez tout à l'heure des singularités, avec raison, sont des femmes qui ne se laissent pas faire et qui disent « mais nous on va faire un certain nombre de choses que les hommes ne font pas ». Donc effectivement élargir les droits de l'homme aux femmes, permettre à la page d'Hironde pour Charlotte Corday, par exemple, d'exister sur le terrain politique là où il y a de l'indécision du côté des Girondins qui sont réfugiés à Caen. Et effectivement, j'y vois. Alors évidemment, il y a de l'ironie. Il y a des femmes qui m'ont écrit en me disant comment vous pouvez-vous utiliser le mot sexe faible. Je dis c'est de l'ironie puisque c'est un oxymore et que je parle de la force du sexe. Alors on me dit mais vous auriez dit le sexe dit faible. Je dis mais c'est de l'humour.
Vous avez ajouté la dimension du genre à la notion très orientale de la force du faible en fait.
Oui, c'est absolument. Ça, oui. Mmh. Et puis cette force, elle est véritable. C'est-à-dire que quand on regarde leur existence, d'abord j'ai regardé ce qu'était leur existence avant la Révolution française pour faire une espèce de généalogie, parce que là où vous faites une généalogie de tous les grands révolutionnaires, Robespierre, Saint-Just, Hébert, etc., vous avez des gens qui sont faits de sac et de cordes. C'est une gauche de ressentiment. Tous ces gens qui ont marqué la Révolution française, les hommes qui ont marqué la Révolution française, sont quand même des gens qui, entre inceste, vol, mensonge, prévarication, etc., sont assez peu recommandables. Et puis les femmes, bah pas du tout. Elles sont au contraire très recommandables parce que d'abord elles sont éduquées comme des filles, c'est-à-dire on estime qu'elles sont faites pour devenir des époux. Mais elle s'emballe parce qu'elle lisent aussi bien Rousseau que Cicéron ou toute la philosophie antique, voire la philosophie grecque, et elles sont prêtes pour l'intelligence, alors que les hommes sont souvent prêts pour le ressentiment.
Et en même temps, si elles ne sont pas sur le devant de la scène, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas du tout l'intention d'aller dans ce sens-là. Je trouve peut-être que vous mettez cet aspect au second plan dans votre ouvrage. C'est-à-dire que vous ne vous attardez pas sur le fait qu'il y a un changement, une passation du pouvoir, tout simplement, de la richesse aussi, à travers les biens nationaux. Hein. C'est-à-dire que la prise de contrôle de la société par une nouvelle classe, qui est la bourgeoisie, tout simplement.
Oui, la bourgeoisie, bien sûr, mais simplement, elles ont été décapitées et n'ont pas vu grand-chose,
oui,
la plupart. Donc effectivement, il aurait fallu qu'elle puisse assister à la fin de la Révolution. Alors c'est le cas de Germaine de Staël, bien sûr. Mais pour celles qui n'ont pas été décapitées, eh bien on a effectivement la folie de Théroigne de Méricourt. Il nous reste Germaine de Staël qui, elle, est capable de voir comment les choses se sont passées parce qu'elle a connu le consulat, l'Empire, etc.
Et Germaine de Staël, elle est née, elle, vraiment dans le sein des saints.
Oui.
Son père était ministre de Louis XVI. Hein, c'est nècre, c'est pas n'importe qui quand même.
Oui.
Elle était avec la reine Marie-Antoinette au moment de l'émeute des 5 et 6 octobre 1789. Enfin, elle a vu ce qu'était l'Ancien Régime, elle connaît les rouages du gouvernement et elle va devenir l'historienne, la première historienne de la Révolution. C'est assez extraordinaire, avant de devenir aussi l'ennemi intime de Napoléon Bonaparte.
Oui. Enfin, bon. Alors elle, effectivement, elle connaît les choses dans le détail, puisqu'elle voit très bien que la Révolution française aurait pu ne pas avoir lieu comme elle a eu lieu, mais enfin, on ne va pas faire d'Uchronie.
Mm-hmm.
Mais si effectivement on avait écouté son père, alors il y a une grande histoire d'amour. Necker, c'est vraiment son papa chéri. Là. Je pense que c'était un gibier absolument de prédilection pour Madame Roudinesco, mais on voit bien qu'elle se dit, mais elle a en même temps raison, que si le roi avait écouté son père et qu'il avait fait les réformes nécessaires, assez probablement on n'aurait pas eu ce qui est advenu. Donc ça, c'est effectivement un grand regret qu'elle a, et en ce sens, elle a raison. On peut imaginer que les choses auraient pu se passer autrement si Turgot avait été écouté, Necker écouté ou entendu, ou quelques-uns qui...
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que si les femmes avaient eu davantage de pouvoir, la révolution aurait été à la fois moins sanglante et plus efficace, plus effective ?
Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui est vraiment responsable, c'est Louis XVI. C'était un homme doux, bon, gentil,
et faible
et qui effectivement n'a pas fait tirer par exemple sur la foule. C'est tout à son honneur. Mais en même temps, on imagine bien que la Révolution française ne se serait pas passée comme elle s'est passée aussi s'il avait décidé d'envoyer la troupe. Donc c'est un homme qui laisse faire, qui se laisse faire, qui ne prend pas de décision, qui estime que la monarchie est là depuis toujours et qu'elle va rester là depuis toujours et qu'il n'y a pas ni à composer, ni à réprimer. Et c'est plutôt lui qui est fautif dans cette affaire. Et puis les aristocrates ne veulent pas de cette révolution. C'est-à-dire effectivement, il y a une poussée de la bourgeoisie, les aristocrates voient bien que leurs pouvoirs sont menacés et ils font savoir que si effectivement le roi ne les soutient pas, ils ne soutiendront plus le roi non plus. Et je pense qu'ils se laissent avoir parce qu'il aurait très bien pu choisir autre chose et autrement, sacrifier une partie de l'aristocratie qui de toute façon était déjà sacrifiée pour faire de telle sorte qu'il soit aussi l'homme avec la monarchie constitutionnelle, l'homme de l'avènement de la bourgeoisie sans que le sang ait besoin de couler.
À mesure que je vous entends parler, Michel Onfray, je me dis qu'il aurait été passionnant de faire, mais ce serait l'objet d'une toute autre émission, une histoire de la Gironde, qui existe hein, d'ailleurs, par ailleurs. Mais
Non, celle de Lamartine, vous voulez dire.
Oui.
Non, elle n'est pas sympathique. Vous savez,
c'est ça
qui est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de la Gironde, et quand il y en a une, elle est mauvaise. C'est-à-dire Lamartine n'est pas empathique. Enfin, je ne lui demande même pas d'être empathique, mais d'être objectif. C'est assez sidérant de maltraiter un sujet. Il a voulu faire une espèce de best-seller vite fait, vite écrit, comme certains aujourd'hui, mais ça colle parole au basque des Girondins, ne lisez pas l'histoire des Girondins de Lamartine. Elle reste à faire, cette histoire, vous avez raison.
Eh bien écoutez, avis aux amateurs. Et en attendant, on peut se plonger dans votre ouvrage, La force du sexe faible, contre-histoire de la Révolution française. Donc une histoire féminine en quelque sorte de la Révolution française, par Michel Onfray. Et c'est édité chez Autrement. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Vous restez avec nous sur Europe 1, au cœur de l'histoire continue dans un instant. Et Franck Ferrand vous répondra à la question d'Esther sur l'origine des noms féminins donnés aux ouragans.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question d'Esther qu'elle vous pose, Franck Ferrand, par mail sur europe1.fr. Voici le message d'Esther. Quelle est l'origine des prénoms féminins donnés aux ouragans? Est-ce dû à la misogynie des météorologues ou existe-t-il une raison historique valable qui explique que des prénoms féminins soient donnés aux ouragans?
Oui, alors c'est pas tout à fait vrai. Esther va voir que aujourd'hui les ouragans ont des noms tantôt masculins, tantôt féminins. Avant 1950, on les désignait simplement par une lettre. On disait 1939 A, 1939 B. Ça manquait un peu de poésie. Et le Bureau météorologique américain va décider de donner des noms aux ouragans pour marquer peut-être l'esprit des gens, pour les retenir. Et on va choisir des prénoms de femmes. Vous imaginez la colère des ligues féministes. Tout ça va obliger les autorités internationales à prendre le soin d'alterner prénoms masculins et prénoms féminins, donc depuis 1979. Alors le choix de ces petits noms qui doivent être courts et distincts est fait en fonction de l'endroit où se produit, où se manifeste, où doit se manifester l'ouragan. Le Centre National des Ouragans, qui est basé à Miami en Floride, choisit des noms à consonance anglaise, française, espagnole. La liste suit un ordre alphabétique pour des raisons de pratique, tout simplement. Et certains prénoms d'ouragans meurtriers, il faut le dire, deviennent tellement synonymes de catastrophe et d'horreur qu'ils ne sont plus employés. Par exemple, Sandy, 2012, Katrina, 2005, Allison, 1995, ce sont des prénoms qu'on n'emploie quasiment plus maintenant à cause, tout simplement, des ouragans. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.